Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Pendant longtemps, c'était presque considéré comme une spécialité nationale française qui tantôt agaçait et parfois faisait sourire, notamment à l'étranger. L'art de manifester pacifiquement pour se faire entendre semble en voie de perdition, en particulier depuis les défilés contre la loi travail en 2016. Depuis, et le mouvement des Gilets jaunes a renforcé cette impression, des violences semblent éclater de plus en plus souvent entre manifestants et forces de l'ordre, tous y étant de plus en plus préparés. La manifestation pour le climat de samedi dernier à Paris a encore renforcé ce sentiment d'escalade et d'inéluctabilité. Peut-on manifester sereinement en France? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Christian Mouana, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et directeur du CESDIP, c'est le Centre de Recherche Sociologique sur le Droit et les Institutions Pénales, et auteur du livre « La police contre les citoyens, point d'interrogation » aux éditions du Champ Social. Et Arnaud Hout, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur en histoire contemporaine à Sorbonne Université, membre du Centre d'Histoire du 19e siècle et auteur du livre « Apparaître en janvier prochain, 2020, une histoire des polices » aux éditions Belin. On va revenir sur ce qui s'est passé samedi. La manifestation pour la défense du climat a été rejointe par des gilets jaunes et surtout des black blocs venus clairement pour la confrontation avec les forces de l'ordre qui, pour répliquer aux dégradations et aux violences, ont fait usage de gaz lacrymogène dans une foule qui n'était pas venue et pas préparée pour cela. Les organisateurs ont appelé à la dispersion devant l'impossibilité de manifester pacifiquement et cela a été souligné devant l'attitude des forces de l'ordre. Est-ce que ça vous a surpris, Christian?
Non, ça ne m'a pas surpris parce que ça fait quand même une assez longue période qui a vu se rigidifier ces relations entre les manifestants et les forces de l'ordre. Vous avez parlé de la loi travail. Il est clair que c'est à ce moment-là qu'on observe que la police, notamment celle chargée du maintien de l'ordre, intervient de plus en plus violemment, utilise un certain nombre d'outils. On reparlera certainement des fameux LBD ou autres. Et donc, on voit bien qu'il y a une réaction très forte et que les gilets jaunes n'ont fait qu'amplifier.
Arnaud Hout, vous qui êtes historien, est-ce que ça vous surprend cette évolution ou...
Ça m'oblige en tout cas à changer mes cours, parce que ça fait une dizaine d'années que je fais un cours justement notamment sur l'histoire du maintien de l'ordre, et encore je dirais il y a 4 ou 5 ans, on pouvait conclure sur l'idée d'une pacification du maintien de l'ordre, sur l'idée qu'on pouvait aujourd'hui manifester en toute sécurité, et d'ailleurs nos étudiants en général en avaient l'habitude et l'expérience, et ça participait justement d'un rituel. Et là, effectivement, c'est vrai que la loi travail, je pense, est une date un petit peu rupture de ce point de vue. On sait, quand on a une manifestation, à Paris au moins, qu'on s'expose réellement à des risques physiques.
Alors déjà, le 1er mai, on va revenir là-dessus, la CGT, qui avait l'habitude d'organiser des manifestations et de discuter avec la préfecture de police en amont, avait protesté contre l'intervention des forces de l'ordre contre des éléments violents qui s'étaient infiltrés dans son défilé, en tête de cortège, carrément. Ça devient donc un schéma qui est classique et qui brise les schémas habituels, Christian Mouana.
Oui, alors ce qu'il faut dire, il y a toujours eu dans un grand nombre de manifestations des éléments violents qui venaient profiter de la manifestation pour commettre un certain nombre d'actes. Par exemple, on peut citer les manifestations aux Invalides. Il y avait des manifestations d'étudiants avec un certain nombre de jeunes qu'on disait venus d'autres quartiers, bon, on le sait pas, mais qui avaient mené des actions violentes contre les manifestants. Donc la police, normalement, et les forces de maintien de l'ordre sont formées à ça. Ce qu'on observe dernièrement, c'est que au lieu de procéder de manière chirurgicale, c'est-à-dire de s'attaquer aux groupes violents exclusivement, elles s'attaquent aux groupes violents, mais il y a un certain nombre d'actes policiers qui vont toucher les restes de cortèges, parfois même très loin des lieux où sont concentrés les black blocs, qui sont en général des groupes certes très violents, très mobiles, mais aussi très limités en nombre.
La violence dans les manifestations, Arnaud Hout, elle est en augmentation? Est-ce que c'est un ressenti? Est-ce qu'il y a un seuil de tolérance à la violence qui a baissé?
C'est très difficile de répondre à ce type de question parce qu'effectivement la violence c'est une donnée qui est aussi justement dépendante de nos sociétés, de notre rapport à la violence. Si on regarde aujourd'hui des images d'archives de l'après 68, on est sidéré par la violence qu'il y a dans les manifestations étudiantes du début des années 70.
Donc manifestations d'extrême droite ou d'extrême gauche d'ailleurs.
Tout à fait, voilà, il y a des confrontations,
on est casqué quoi. Hein,
ouais. Exactement, le modèle justement de l'affrontement à la barre de fer qui est très typique. Alors évidemment, on peut se dire du coup que la violence n'est pas forcément plus importante, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas plus fortement ressentie. Parce qu'effectivement, entre-temps, je pense que c'est un élément très important, sur les 40 dernières années, on a pris l'habitude d'avoir des manifestations pacifiées. Et effectivement, c'est très frappant, on le voyait samedi, des manifestations où on savait qu'on pouvait emmener des enfants, par exemple.
Oui, des familles avec des poussettes. C'est voilà. Votre avis de sociologue, Christian Moina, sur cette violence ressentie, violence réelle?
Alors, je pense qu'il y a aussi une violence qui est dans le discours politique. Et on sait très bien, enfin, l'historien me contredira pas, je pense, que on a des forces de police qui se sont organisées justement pour tendre de plus en plus vers le zéro blessé, le zéro mort. Et il faut constater que depuis mai 68, dans les manifestations, on a eu très très peu de manifestants tués. Hein. La dernière fois, c'était Malikou Sekine.
1986.
Et d'ailleurs, ce qui est intéressant à travers l'affaire Malikou Sekine, c'est qu'on voit qu'il y a une réaction assez forte de Charles Pasqua, qui n'est pas connu pour étant quelqu'un de particulièrement gentil ou faible vis-à-vis des manifestants, qui a été de dissoudre une unité de voltigeurs, de policiers à moto, avec des collègues qui tenaient des grandes barres et qui avaient tabassé pas mal de gens. Donc, on s'aperçoit qu'il y a un discours politique qui est un peu plus de dire aux manifestants « Attention, si vous venez, vous risquez d'être assimilés d'une part au black bloc, au violent, et puis vous risquez d'être les victimes collatérales de violences policières dites légitimes. » Et c'est un discours qu'on retrouve au moment de la loi travail de la part de Manuel Valls et qu'on a retrouvé surtout dans les discours d'Édouard Philippe au printemps et d'Emmanuel Macron.
Oui, Édouard Philippe qui explique au printemps que la doctrine de maintien de l'ordre va être plus sévère au moment où les manifestations commencent à vraiment dégénérer. Ça, c'est une partie importante. Il y a une évolution du discours politique. Est-ce qu'il y a une utilisation politique du maintien de l'ordre, Arnaud?
Oui, c'est une évidence. Quand on parle de doctrine, justement, pour le coup, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment le mot a eu un succès. Il a été repris par tous les politiques, dont aucun ne saurait définir ce qu'est une doctrine de maintien de l'ordre, et d'ailleurs personne ne le leur reproche, mais il a été repris par tout le monde, il a été repris par tous les médias. On a eu droit tous les samedis du printemps dernier à des analyses, justement, des évolutions doctrinales du maintien de l'ordre. Alors, ce qui est très intéressant et inquiétant, il faut bien le dire, c'est que quand on parle justement de cette doctrine qu'il faut remettre en question, c'est la doctrine du zéro mort. Mmh. C'est la doctrine du zéro blessé. C'est la doctrine qui considère, Christian Moina le disait à juste titre, que Malikou Sekine, c'est un drame qu'il faut plus voir se reproduire. Et moi, ce que je trouve très frappant depuis quelques mois, c'est qu'on entend, y compris dans des médias de très grande diffusion, des propos disant qu'en gros, il faut oublier Malikou Sekine, il faut oublier cette histoire. Il y a même eu récemment des propos quasiment révisionniste,
oui,
sur Malikou Sekine, disant qu'en gros c'était un peu de sa faute, ce qui est une aberration, hein, et pour le coup scandaleux.
On va le préciser, parce qu'on va pas se laisser entraîner dans le révisionnisme. Malikou Sekine est mort des coups donnés par la police en 1986.
Tout à fait, c'était jugé, effectivement.
Faut absolument le rappeler. La merde, ça devient difficile de manifester à Paris. C'est la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui l'a dit en s'en prenant à la préfecture de police, laquelle assume totalement ses choix sécuritaires, Christian Moina. C'est officiel, quoi. On prend un risque quand on va manifester.
Oui, mais c'est ce changement de doctrine, hein, en tout cas ce changement de philosophie de la part des gouvernants, et je dirais la nomination du nouveau préfet de police s'inscrit clairement dans cette mouvance, puisque en même
Monsieur
temps
l'Allemand, c'est
voilà,
son nom, voilà.
Puisque son prédécesseur a été débarqué, en même temps on a débarqué le responsable de la police qui avait incité les policiers à utiliser moins ces fameux lanceurs de balles de défense qui ont fait tant de blessés. Je rappelle que c'est considéré du point de vue juridique comme une arme de guerre. Donc on n'est quand même pas dans l'utilisation de gaz lacrymogène ou de canons à eau ou d'autres choses. On est quand même dans l'utilisation de choses violentes. Et donc on voit bien comment il y a une volonté des dirigeants de dissuader les manifestants potentiels, quelles que soient d'ailleurs leurs opinions, droite ou gauche ou autre, d'aller manifester, d'aller protester.
Il y avait à l'époque, je ne sais pas si je peux dire ça, une communication quasi systématique entre organisateurs et forces de l'ordre. On déclarait la manifestation, on définissait un parcours ensemble, on le négociait si besoin. Ça, est-ce que c'est fini, Arnaud Hout? Et voilà, pourquoi?
Alors, j'aimerais bien justement revenir sur l'histoire de cette construction, parce que c'est quelque chose qui a été fondamental dans l'histoire, justement, du maintien de l'ordre moderne. C'est en 1909, en octobre 1909, il y a des manifestations le 13 octobre qui sont une catastrophe, violence très forte, coup de feu même tiré sur des policiers. Enfin, là, on a vraiment le prototype de la manifestation cauchemardesque. Et 4 jours plus tard, on a la décision politique qui est prise d'autoriser une manifestation. Ce sont les mêmes, c'est les socialistes en l'occurrence, hein, et les cortèges également de syndicalistes et d'anarchistes. On les autorise à manifester, mais à condition qu'ils aient un service d'ordre, qu'il y ait un parcours déclaré, il y a une sorte de négociation qui se met en place. Alors c'est une énorme prise de risque. C'est sans doute la première fois que le pouvoir politique va tolérer une manifestation et va négocier la mise en place. Et en fait, cette manifestation du 17 octobre 1909, elle invente, pour le coup, une règle qui va fonctionner plus ou moins bien, hein, pas toujours, effectivement, mais qui va devenir fondamentale.
Qui s'est imposée au fil du temps, en fait.
Exactement, et qui a poussé notamment les responsables des cortèges de manifestations. Vous parliez de la CGT tout à l'heure, mais justement, la CGT, c'est un service d'ordre, c'est une compétence. C'est vrai que la difficulté des manifestations des Gilets jaunes, par exemple, c'est l'incapacité, au début du moins, à avoir un service d'ordre. Parce que par définition, hein, c'est des mouvements qui ne sont pas organisés, donc qui ne peuvent pas disposer de la même manière d'une expérience manifestante et de service d'ordre adapté.
Alors cette communication systématique, c'est fini, Christian Moana. Pourquoi? Comment vous l'expliquez? Ça vient d'où? Ça vient du côté force de l'ordre ou du côté manifestant? Effectivement, il n'y avait pas de parcours déposé par les Gilets jaunes. Hein.
Oui, alors effectivement, ça a été dit, il y a le problème de l'organisation d'une organisation non organisée, comme sont les Gilets jaunes. C'est effectivement le paradoxe. Mais il y a aussi du côté policier, et ça c'est intéressant puisque vous avez parlé de manifestations organisées par la CGT ou de manifestations sur la loi travail, où on avait beaucoup d'organisations constituées avec des services d'ordre qui ont manifesté et où il y a eu quand même eu beaucoup de problèmes, c'est qu'un certain nombre de changements dans l'organisation policière ont joué. Alors, on pourrait citer très rapidement la dissolution des renseignements généraux qui servaient, alors non seulement de services de renseignement on a dit politique ou syndical, mais qui servait aussi de lien avec ces organisations.
Des agents de liaison, quasiment.
Voilà, c'était absolument ça. Il y avait une co-construction. On pourrait aussi dire que parmi les forces de l'ordre spécialisées, donc les CRS et les gendarmes mobiles, mais je pense plus du côté des CRS, on a une évolution où, de plus en plus, ce qui faisait partie du métier des plus anciens CRS, c'est-à-dire d'aller sur le terrain, un peu échanger avec les responsables du service de l'ordre, manière plus ou moins officielle ou officieuse selon les moments, mais où plein de choses se réglaient comme ça de manière informelle et on pouvait dire bon, est-ce que ces gars-là ils sont chez vous ou pas, etc. C'est-à-dire qu'on faisait participer en quelque sorte les manifestants ou leur service d'ordre à la gestion du groupe, des groupes dissidents. Et ça ne se fait plus. Plus j'ajouterais le fait que de plus en plus sur des manifestations, on va mobiliser des policiers qui n'ont aucune expérience en termes de maintien de l'ordre. Je pense en particulier aux BAC. Alors, on sait très bien que les BAC...
Les brigades anticriminalité.
Voilà, les brigades anticriminalité, ils sont là pour montrer les muscles, pour faire du chiffre, pour dissuader plus que pour faire autre chose dans la police nationale. Et donc, on envoie ces personnes-là en première ligne. Donc, ils sont pas forcément bien équipés, ils peuvent paniquer. Et en plus, ils sont pas forcément les plus doués pour la négociation.
C'est nouveau, ça, cette façon de mobiliser l'ensemble des forces de police, qu'elles soient spécifiquement formées ou non, Arnaud?
Question assez compliquée parce que en réalité ça dépend du nombre de manifestants, puisqu'évidemment il faut un ratio de nombre de policiers en fonction du nombre de manifestants. Donc plus on va avoir de mouvements sociaux importants, plus on aura besoin bien entendu de mobiliser des polices non spécialisées. Maintenant, même quand on est obligé d'aller chercher au-delà des forces spécialisées que sont les gendarmes mobiles et les CRS, on peut faire des choix. On peut justement choisir d'aller chercher des unités plutôt dites de police municipale, de sécurité publique, qui sont des unités qui, justement, comme le disait Christian Moana, vont plutôt être des unités qui vont être installées sur le terrain pour dissuader, mais qui vont pas aller au contact. Ou vous pouvez mettre des unités dont la mission a toujours été, comme c'est le cas des BAC, d'aller justement à l'affrontement, de chercher l'affrontement. Mmh. C'est là qu'il y a un choix politique. C'est là effectivement qu'il y a une question doctrinale et donc une volonté ou pas justement d'aller à la confrontation.
Le plus petit rassemblement à Paris et dans les grandes villes de province entraîne désormais un déploiement de moyens policiers très impressionnant. On parlait de ratio policiers avec manifestants. Est-ce que c'est finalement pas ça la nouvelle forme de communication, Christian Moena.
Oui, c'est ça. C'est une forme de communication sans communication, puisque l'idée c'est d'impressionner. Alors ça a toujours été le cas pour les forces de l'ordre. Il s'agissait toujours pour la police de dire on va négocier, mais on va négocier aussi parce que derrière, parce si qu'on est vous les plus voulez forts. Pas négocier, on sera les plus forts. Et la doctrine du maintien de l'ordre en France est toujours d'évaluer la dangerosité de la manifestation et de déployer effectivement le nombre de policiers suffisant à ce qu'on estime pour contraindre et si jamais ça dérape être sûr que la police garde le dernier mot. C'est d'ailleurs le problème des premières manifestations des Gilets jaunes où le gouvernement, du fait de l'originalité du mouvement, ne s'attend pas du tout à la forme que va prendre la manifestation, ni d'ailleurs à son succès, et où les forces de police sont totalement débordées.
Ouais. Est-ce qu'il y a un moyen de procéder autrement que d'avoir une réaction, contraignante, lorsque des éléments violents s'infiltrent dans les cortèges? Est-ce qu'il y a des façons de traiter ça différemment, historiquement, Arnaud?
Évidemment, face à la violence, difficile de ne pas réagir.
Si vous avez 1000 black blocs dans
bien
un
entendu.
Cortège de la CGT ou dans la manif climat, est-ce que c'est possible de faire autrement que d'intervenir?
Il est nécessaire, dans tous les cas, d'accepter l'idée que la police va utiliser la violence. Maintenant, il y a utiliser la violence de manière frontale directe et il y a utiliser la violence de manière intimidante, ce qui n'est pas la même chose. Il y a notamment une question clé qui est celle de la communication. Comment la police va annoncer son intervention? Il y a d'autres pays, c'est le cas de l'Allemagne par exemple, c'est le cas des pays d'Europe du Nord, où on a mis en place des techniques qui reposent en grande partie sur l'usage des haut-parleurs, de vrais haut-parleurs qu'on entend, hein, pas les mégaphones de commissaires de police que personne ne comprend, et qui ont justement pour fonction, d'une certaine manière, de donner une chance. Peut-être pas à la négociation, on négocie pas dans ce cas-là, mais en tout cas, de donner une chance pour éviter la confrontation.
On précise que ce sont des pays où les black blocs existent et sont même assez actifs.
Oui, c'est les mêmes
actifs.
Types de manifestants qu'on va retrouver.
Ce sont les mêmes, d'ailleurs, qui voyagent.
Ce sont les mêmes, ouais, absolument. Quelles sont alors les stratégies possibles pour faire baisser la tension, Christian Moena?
Alors, mais déjà, il faut dire les choses. Avec certaines personnes, on peut pas négocier. Oui. Et le problème, il est pas tant de l'intervention violente des policiers contre des manifestants violents, type Black Bloc, ou de gens qu'on voit attaquer physiquement des locaux ou d'autres personnes. Le problème, il est quand la violence déborde ces personnes qui devraient être ciblées et où on voit les policiers, pour des raisons qu'on pourrait développer, s'attaquer à l'autre bout du cortège. 2000 Black Bloc, généralement maintenant ils se mettent d'ailleurs en début de cortège, autrefois ils se mettaient souvent à la fin du cortège, là on les voit plutôt ces dernières années en début de cortège, ils sont assez facilement identifiables mais par contre, ce qu'on voit, c'est que des personnes qui peuvent se situer 500, 600, 1000 mètres plus loin se font charger par la police. La police coupe des cortèges. Enfin, il y a des tas de stratégies qui sont plus ou moins efficaces, mais en tout cas qui sèment la panique au milieu de ces gens-là et qui aussi génèrent de la frustration avec ce cercle vicieux. Parce que quand on voit des gens qui manifestent paisiblement se faire attaquer, recevoir des objectifs, voilà, ou des objets de lacrymogènes ou d'autres, ou se faire frapper par des policiers, ça paraît d'autant plus insupportable. Et ce qui est intéressant, encore une fois, avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est que de plus en plus de Français se trouvent confrontés à des formes de violence policière, alors qu'autrefois, c'était surtout le fait de jeunes gens issus des milieux populaires dans les quartiers sensibles. On voit de plus en plus, et d'ailleurs, on le voit dans l'appréciation que font les Français de la police, on voit que l'image de la police française est en train de se dégrader dans des couches sociales qui, autrefois, avaient une bonne image de la police. Et c'est ça qui est inquiétant, parce que c'est un phénomène de cercle vicieux qui s'amorce.
Arnaud, il nous reste quelques secondes. Oui, allez-y, finissez.
Si je peux me permettre, l'image de la police se dégrade fortement chez beaucoup, mais elle se renforce paradoxalement chez d'autres.
Absolument.
Il y a une polarisation, et peut-être que c'est ça le plus inquiétant aujourd'hui, c'est qu'on a une société de plus en plus clivée entre ceux qui n'ont plus du tout confiance en la police et ceux qui, au contraire, vont donner un mandat total à la police. Et dans les deux cas, c'est pas simple.
Merci Arnaud Hout, merci à vous également Christian Moena d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation, aujourd'hui Valentin Vaner. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio. Vous pouvez aussi participer au débat sur les réseaux sociaux. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.